Merci pour ces questions. S'agissant donc de la première, du coup, puisque vous avez pas utilisé votre temps, vous pourrez peut-être m'expliquer davantage la seconde, que je n'ai pas forcément bien saisi. Mais concernant en tout cas la première sur l'injonction à un islam de France, cette formule islam de France, il me semble, est-ce que c'était une production de Nicolas Sarkozy, donc il opposait
non,
islam.
Non.
Non,
non, non, ça date de la fin des années 80.
D'accord. Islam de France en opposition à un islam en France. Tout d'abord, je vais me placer donc sous l'angle de la juriste, hein, pour éviter de partir dans tous les sens. D'abord, c'est d'abord une formulation qui peut comporter, en tout cas, qu'on peut interpréter de différentes manières. Dans le contexte dans lequel j'ai appréhendé cette formulation, il s'agissait davantage d'empêcher l'islam de France d'être noyauté par les influences étrangères, notamment par le biais donc des interventions des États étrangers, par le financement des mosquées qui supposait aussi donc un droit de regard, d'orientation sur les différentes politiques menées au sein de ces mosquées. Concernant le statut personnel mahorais, donc c'est un statut qui s'inscrit pleinement dans l'islam de France. Mayotte est devenue française, et à partir de ces dates-là, donc à partir donc du traité donc qui a été établi en 1841, les autorités politiques françaises s'étaient engagées à respecter donc l'intégralité du statut personnel mahorais tel qu'il existait donc depuis plusieurs siècles dans ses composantes musulmanes, dans ses composantes traditionnelles africaines, malgaches. Et arabe. C'est pourquoi je suis pas sûr qu'on puisse considérer que l'existence de ce statut personnel dans son intégralité déroge en quelque sorte à cet islam de France. Si on considère avec ce phénomène et d'autres phénomènes donc de place de l'islam en France, qu'il s'agit d'un islam finalement qui est pluriel et qui prend différentes formes. Lorsque la formulation donc islam de France a été évoquée, donc il s'agissait davantage de, en quelque sorte, de centraliser cet islam et de mettre en place donc partout sur le territoire, en métropole, en outre-mer, un islam qui présenterait, on va dire, la même configuration. Il ne me semble pas qu'avec cet islam mahorais qui présente cette particularité juridique, on dérogerait donc à cet islam de France. En tout cas, effectivement, on dérogerait peut-être à une certaine vision de l'islam telle qu'un certain nombre d'autorités politiques le concevraient. Mais je ne suis pas certaine ici qu'en l'occurrence, cette pluralité traduise donc une dérogation à cet islam de France. S'agissant donc de ce débat là sur et puis oui, surtout d'un point de vue juridique, j'ai du mal à saisir en fait la portée de cette formulation islam de France. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Qu'est-ce que d'un point de vue juridique ça signifie? Donc juridiquement on sait pas trop, politiquement j'ai l'impression qu'on y met un peu tout et n'importe quoi, donc il me semble que c'est Sarkozy qui avait peut-être repris la formulation en opposant islam de France et islam en France, mais d'un point de vue juridique qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, du point de vue du statut personnel mahorais, je suis pas sûr que cette formulation ait sa place. En tout cas, le débat se situe pas ici.
Je peux juste reformuler ma question peut-être plus simplement. Est-ce que ce débat existe à Mayotte? Et pardonnez-moi si c'est très naïf, mais j'y connais vraiment absolument rien. Et quels sont ces points nodaux? C'est ça.
Quel débat, c'est-à-dire
sur l'islam de France. Est-ce que c'est un débat qui existe à Mayotte et quels sont ses points nodaux? Est-ce qu'il va par exemple s'agir des rapports hommes-femmes puisque manifestement c'est l'objet des restrictions du statut personnel ou est-ce que
alors,
il s'agit d'autre chose?
Je l'ai appréhendé sous l'angle juridique, donc moi j'ai pas d'opinion sur le terrain, c'est-à-dire sur le terrain la manière dont les choses se sont développés, mais en tout cas ce qui est certain c'est que la population, comme j'avais évoqué rapidement, la population mahoraise et les autorités locales, je ne parle pas du député Camardin qui avait initié l'amendement, n'ont pas véritablement été ni associés, ni informés. Il y a peu de consultations véritablement au débat, en fait. Donc ce sont des réformes qui ont été introduites dans la précipitation. Donc j'imagine que, bien entendu, il y a sûrement donc des débats donc qui existent autour de la question de l'existence du statut personnel mahorais. Donc il me semble également que la population est très attachée à ce statut personnel. Il y a sûrement une grande diversité dans des débats, mais
C'est juste une question de temps, quoi.
Ah d'accord, très bien.
C'est 3 minutes, j'avais oublié de dire, c'est 3 minutes, quoi.
D'accord. Ah oui, non, je ne l'avais pas dit, effectivement. Voilà. 3 minutes,
on va lui donner 5 minutes.
D'accord. mais donc, en l'occurrence, sur cette réforme, il n'y a pas de concertation, pas de débat, ça a vraiment été quelque chose, pour le dire brutalement, qui a été imposé par le haut.
Merci.
Il y avait une deuxième...
Mais c'est ce que j'ai reformulé, mais
d'accord.
Vous
avez
répondu.
Donc, Hugo, 5 minutes, c'est ça, parce qu'il a parlé...
Je rajoute peut-être juste un tout petit point sur la question qui vient de poser à Mayotte pour compléter, et puis après je répondrai à la question qui était posée au départ. Ce débat-là, en septembre ou octobre, quand j'étais, ce débat sur l'islam en France, de France, il est vraiment là, en plein... Il agite tout le monde, enfin, notamment les caddies qui sont en première ligne parce qu'ils sont salariés de l'État et donc ils sont assez à eux qu'on impose le plus de se mouler dans cette réforme. C'est vraiment un peu ambigu parce qu'il y a à la fois la volonté à Mayotte de ne pas être écarté complètement, j'imagine qu'on en reparlera tout à l'heure, mais des organisations de représentation de l'islam de France. Donc il y a une énorme mise en avant de la spécificité de cet islam qui est décrit comme plus modéré, qui est en fait décrit par tout le monde comme un islam qui est culturel et non pas cultuel. Et donc on insiste sur tous les signaux qui clignotent de compatibilité, le fait qu'on ait fait des efforts auparavant, le fait qu'il y ait peu de cas de radicalisation, etc. Et puis en même temps, il y a un discours, ça c'est celui qui est présenté aux institutions, à la préfecture notamment, et puis en sous-main, moi en entretien, je recueillais des discours beaucoup plus critiques qui étaient de dire mais on a fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Il ne faudrait pas non plus que changer l'islam et faire un islam de France, ça veuille dire nous enlever notre identité de musulman et qu'on a le droit d'être à la fois français et à la fois musulman. Bon, moi, ça c'était pour compléter. En décrivant les trois modèles, à la fois les deux modèles d'éducation coranique et les trois modèles d'enseignants, ça, il y a un côté un peu idéatypique et un peu formaté, le fundi traditionnel, le stade lettré et le maître coranique qui est compatible avec la République. En fait, si je prends un exemple, toutes ces logiques-là, elles s'imbriquent à chaque fois. Je prends juste l'exemple. Un des enjeux, justement, dans ces chiionies pour freiner leur disparition, c'est d'assurer la relève. Et dans une des villes dans laquelle j'étais, qui est Tsingoni, qui est une ville ancienne d'islam, d'implantation d'islam à Mayotte, ben justement, j'ai pu rencontrer un de ces jeunes, qui a une trentaine d'années, qui prend la relève, en gros, qui travaille avec la Fundi, qui a plus de 70 ans, pour l'assister dans l'école coranique. Et lui, il joue sur plein de choses. À la fois, il est jeune et il parle français, et donc il est perçu comme plus cool, et les élèves l'appellent son pote, etc. Donc il y a un côté « je me fais mieux voir des jeunes ». En même temps, il est plus lettré parce qu'il a étudié à l'étranger, à la Réunion, et puis, non, dans son cas, pas à l'étranger d'ailleurs, mais à la Réunion et en métropole, donc il fait valoir ce rapport plus lettré qui plaît aux familles, justement, qui trouvaient que le chioni était un peu léger sur ce point-là. En même temps, cette Fundi, c'était sa propre enseignante quand il était petit, et donc lui me dit « je suis très gêné quand elle me demande devant les élèves d'expliquer les choses, de lire le Coran parce qu'elle ne peut pas toujours le faire, etc. » Donc il se réinscrit dans ce rapport d'aînesse et dans ce rapport d'ancienneté avec sa propre Fundi, ce qui plaît beaucoup à la Fundi en question. Et puis en même temps, lui a été initié à l'islam par le mouvement Tabir, et donc à certains moments, il est cette légitimité. Parfois, elle est questionnée parce qu'il peut être vu, à Mayotte, on parle des Djaoulas, c'est le terme générique qu'on utilise pour parler des gens qui seraient radicalisés. À certains moments, on le voit comme possiblement un danger face à cet islam de Mayotte. Et dès qu'il y a dans la ville eu quelques débats sur la présence d'un imam, de tel ou tel imam dans la mosquée, on l'a très vite ciblé comme un vecteur possible de radicalisation, etc. Donc en fait, il n'y a pas une légitimité maximale à chaque fois. C'est tout le monde bricole avec des choses sur lesquelles il peut jouer, et ça tient tant bien que mal. Et quand ça ne tient pas, de toute façon, on est écarté assez rapidement. soit de l'école coranique, soit de la mosquée, etc.
Cheikh Nahr.
Par rapport à l'existence de ces débats sur la discrétion et l'invisibilité de ces deux confréries, les débats existent à plusieurs. Enfin, ils existent, ils n'existent pas. Parce qu'en fait, c'est les gens que j'ai rencontrés, très souvent, quand ils sont pour que les musulmans soient visibles de façon générale, ils disent que nous, les musulmans subsahariens, nous avons des valeurs de tolérance, de pardon, de compréhension, on vit avec des chrétiens, ça ne pose pas de problème, et constat. Mais quand il s'agit de révéler, parce qu'il faut quand même avouer que surtout les yacoubistes, ils ont des pratiques et des spécificités confréries particulières. Donc quand il s'agit de tout ce qui concerne ces spécificités concernant, parce que c'est aussi une confrérie où on peut évoquer le nom de Dieu, par exemple en dansant, des trucs pareils, ils ne souhaitent pas extérioriser ça. Parce que même, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un dans le cadre de cette étude, je me suis rendu compte que, parce que j'ai essayé de, pourtant, ce sont nos familles se connaissent, j'ai essayé de prendre contact avec cette famille plusieurs fois, à chaque fois, on repoussait les rendez-vous. Je me suis rendu compte qu'il a dû consulter, d'abord, parce qu'il se rencontre ici à Massy-Palaiso, il loue une salle, parce que les hommes et les femmes sont ensemble, font les zikres et tout. Je me suis rendu compte que dans le débat, qu'il avait d'abord contacté sa base ici, et la base a contacté la base au pays. Et puis, parce que c'est dans la diction, il disait, même quand j'ai appelé pour dire que j'allais vous rencontrer, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Je me suis rendu compte que même le discours qu'il produisait était quelque part un discours qui lui a été dicté, c'est ce que tu dois dire. C'est pourquoi je me suis dit, cette visibilité est sujette à caution, cette visibilité qu'ils essayent de dire à chaque fois, les musulmans de France doivent être connus, parce que les musulmans d'origine subsaharienne ont des valeurs à transmettre, ils doivent être connus, ça dépend à quel niveau, parce que quand il s'agit de niveau global, ok, mais quand il s'agit de parler de leur propre spécificité, là, les bas blessent quoi. Là, on essaye d'être méfiant. Par exemple, Nyokan Adama a aussi écrit dans son mémoire de maîtrise consacré au hamalisme. Et puis, il y a aussi si c'est Sekouna qui est un yacoubiste qui a essayé de faire une thèse sur les yacoubistes, il était obligé d'abandonner au bout d'un certain moment parce que la barrière est étanche, il ne peut pas accéder aux informations. Au bout d'un moment, soit tu utilises les archives coloniales qui vont dire bah, les Hamalis c'était ceci, c'était cela. Mais quand il s'agit d'avoir des données fraîches, mais les portes se ferment. Donc du coup, il y en a qui ont renoncé à cette étude. Nyokan Adama a fait un mémoire de maîtrise, a fait un mémoire de DA. Dans le cadre de sa thèse, il n'a pas pu aller loin. Il était obligé d'arrêter. Et Aline Traoré aussi, dans son ouvrage consacré au Hamalis, vous allez constater, quand il est arrivé quand il s'agit de parler de la Roubis, il avait aussi des problèmes pour accéder. Il a quelques données éparses par-ci, par-là qu'il a développées, mais en réalité, on sent qu'il y a un manque d'informations. Et ça m'est arrivé aussi dans le cadre de ma thèse, quand je voulais parler de, comment dirais-je, les identités confessionnelles, bah, c'était pareil. Quoi. Au bout d'un moment, je ne peux pas accéder aux informations dans je suis soniqué. Et la spécificité de cette confrérie à Roubis, c'est que tout le monde est soniqué. Contrairement aux Hamalis, où c'est pluriethnique, ils sont tous soniqués. Déjà, je ne suis pas yacoubiste. Deuxièmement, je suis soniqué. Donc, certaines informations qu'on peut facilement donner à un étranger, on ne peut pas les donner à quelqu'un de proche. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des problèmes qu'il faut analyser.
C'est bon. Okay. Bon, maintenant, on passe à la question. Là, ça.